10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Aujourd'hui, suite de Vermilion Sons, avec une troisième nouvelle, Le labyrinthe Ardoun. Ce récit, comme les autres du recueil, nous entraîne aux abords de cette station touristique, Vermilion Sands, où le sable remplace la mer, où règne une torpeur permanente, où se croisent artistes, excentriques, milliardaires, marginaux, plongés dans un univers d'objets venus d'imaginaires hallucinés. Le narrateur que l'on retrouve dans chacune des 10 nouvelles du livre semble avoir de multiples exigences d'une histoire à l'autre. Changeant de nom et d'activité, il garde toutefois ses particularités, une sorte de nonchalance, d'insouciance, mais aussi une curiosité et une fascination envers de jolies femmes vénéneuses. Max Caldwell, notre narrateur, est un jeune homme la plupart du temps oisif, lecteur de revues d'art, passant son temps au musée d'art abstrait. Ses amis l'ont encouragé à sortir de son indolence. « Tu as déjà entendu parler de Samuel Ardoun ?» me demanda Claude Fribody, le bibliothécaire adjoint. « Il a besoin d'un secrétaire particulier pour 3 mois. Il propose $200 par mois, plus le gîte et le couvert. « Moi, c'est plutôt mal payé, commentai-je. » « Ce type est milliardaire, expliqua Claude. L'argent n'a pas de sens pour lui. Il possède une gigantesque propriété à 30 kilomètres de Vermilion Sands, une sorte de délire architectural complexe. J'ai vaguement entendu parler de lui, dis-je en essayant de me souvenir d'une biographie lue dans quelques revues. Il a une fille d'une grande beauté, ajouta Claude. Miss Emerelda, à la chevelure bleue et aux yeux verts. Vénus hantée et solitaire de Lagon West. Belle à rendre fou, une douzaine de virils plagistes. Il tendit la main vers le téléphone. On peut penser que Max s'engage essentiellement dans l'espoir de rencontrer la fille de Ardoun. Je me rappelais confusément une jeune femme aux yeux sombres, dans une Rolls turquoise, avec 2 raies des sables violettes lovées sur le siège à côté d'elle, qui bloquait la circulation dans le centre-ville de Red Beach quelques mois plus tôt. J'avais cru percevoir une certaine froideur dans ses yeux moqueurs, aux lourdes paupières, tapis sous le chapeau cloche, un zeste d'humour et de mépris qui tenait plus du défi que d'un réel dédain. Renversé dans son fauteuil, Fribody m'observait méthodiquement par-dessus ses mains jointes aux doigts blancs et effilés. « Prends garde, Caldwell, ou sinon elle ne fera qu'une bouchée de toi. » 3 jours plus tard, le chauffeur de Ardoun vint me prendre à Vermilion Sands. Le milliardaire Ardoun laisse passer plusieurs jours avant de convoquer Max, ce qui permet à ce dernier d'approcher la fascinante Emerelda et de faire connaissance avec Hugo, l'architecte du labyrinthe. Elle me dévisagea d'un regard sagace, puis pivota pour s'installer sur l'un des sièges jaune citron contre lequel son corps longiligne et bronzé, dans son maillot de bain turquoise, ressemblait à l'une des salamandres veillant au fronton d'un temple chinois. Elle m'invita d'un geste à m'asseoir à côté d'elle. « Bienvenue à Disneyland !»« Je suis vraiment impressionnée. » Je lui montrai l'alignement des toits à l'horizon. À première vue, on dirait l'endroit où sont venus mourir les 10 siècles derniers. « Au fait, où est votre père ? Il faudrait que je le rencontre. »« Oh, à votre place, je ne m'inquiéterai pas. Papa vous verra quand il en aura envie. Dans 3 semaines environ, probablement. » L'espace d'un instant, je fus distrait et quand je levai les yeux, je vis un grand jeune homme, mince, en short de bain noir, sous un peignoir ardoise, debout, à côté de nous. « Hugo, je te présente Max Caldwell, le secrétaire particulier de papa. » Le visage du jeune homme était partiellement masqué par ses lunettes noires, à monture carrée, mais je notais un front haut et étroit, des pommettes acérées comme des pointes de flèches en silex. « Max vient de me dire à quel point toute cette architecture est futile. » Elle m'adressa un sourire espiègle et ajouta « Hugo sera intéressé de l'apprendre. C'est lui l'architecte de papa. » Quand Max rencontre finalement son employeur, ce dernier lui rend compte de travaux sur la temporalité, estimant que le temps pourrait être modifié, voire supprimé, discourant à propos d'expériences absurdes. Il comprend alors que Hardoon est délirant. Une nuit, j'étais assis sur la terrasse miniature d'un temple chinois lorsque j'entendis quelqu'un avancer rapidement dans l'obscurité en contrebas. Je regardais par-dessus la balustrade ornementale et vis Hardoon passer en toute hâte. Hochant la tête de gauche à droite, il avait l'air d'un possédé. La veste ouverte, la cravate flottant par-dessus l'épaule. De temps à autre, il s'arrêtait entre deux édifices, levait la tête vers les balcons de plâtre vides, puis reprenait sa marche forcée. J'attendis une heure avant de repartir moi-même, écoutant ses pas véloces aller et venir dans les rues désertes, puis je choisis prudemment un passage qui me conduisit dans le désert et regagnai la résidence en faisant un grand détour. Que cherchait-il ? Emerelda, désœuvrée, se rapproche de Max. Elle lui confie qu'elle va devoir s'échapper de cet endroit, laissant entendre que son père ne supporte pas sa vue. Parfois, quand je quittais le bureau de Hardoon et retournais à ma chambre pour chercher un paquet de cigarettes ou changer de chemise, je la voyais se lever, s'aventurer au milieu des temples et scruter d'un regard apathique les cours et les balcons silencieux. Après le dîner, elle me prenait le bras, me faisait traverser la place et emprunter l'une des ruelles qui menaient au désert. Sa longue robe du soir en mousseline bruissait en frôlant le sable encore tiède. Sa conversation était décousue et répétitive, et j'avais l'impression qu'elle essayait de m'enrôler comme confident à présent que Hugo l'avait quitté. Dans la clarté bleue du crépuscule, sa silhouette se détachait sur le Parthénon miniature jouxtant le labyrinthe. Sa bouche et ses yeux expressifs et ses sourcils arqués de masques antiques m'évoquaient une électre éperdue, presque incapable de se contenir dans une macabre tragédie de Sophocle. Nous atteignîmes le bord du labyrinthe à présent, presque terminé. Des dalles de couloirs et de rampes enchevêtrées. Ces tortueuses coursives de béton étaient à ciel ouvert, les murs plats avaient 4 mètres de haut. Au centre du labyrinthe se trouvait une zone dégagée d'une trentaine de mètres de diamètre. La dalle inclinée d'une sorte de scène abstraite saillait du sol, accessible par 2 rampes incurvées. Nous montâmes sur la passerelle métallique rétractable qui enjambait le labyrinthe et passant au-dessus des couloirs, nous nous dirigeâmes vers la scène centrale puis descendîmes vers l'une des rampes. Le mur d'enceinte ne laissait voir que les toits et les minarets des édifices environnants. Des dragons verts défilaient dans le ciel, leur queue s'enroulant au milieu des nuages indigos. Préoccupée, Emerelda s'éloigna de moi. Je regardais autour de moi les bouches des couloirs qui s'ouvraient sur l'arène, chargés chacun d'un potentiel infini de capture et de confusion. As life drives on motion, let songs make a music flow. As love strives on emotion, let sounds make a singing blow. As life strives on motion, let sounds make a music flow. As love strives on emotion, let sounds make a singing blow. As life strives on motion, let sounds make a music flow. As love tries on emotion, let sounds make a singing blow. Le labyrinthe. C'est là que tout finira par se jouer. Retrouvons-nous le 4 février dans Viva Culture et en podcast 10 minutes chronique sur Westrack Radio. Je dois rappeler que les extraits d'un livre ne sont pas le livre, qu'ils ne sont que les choix provisoires d'une lecture. À bientôt. Thank you.